l'intimité de l'histoire.
Oui, aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion du centenaire de la disparition de Sarah Bernhardt, vous nous racontez, toujours en présence de nos illustres invités, l'historienne et écrivaine Hélène Tierchant et la directrice du Petit Palais Annick Lemoine, la double vie de celle qui n'était pas que comédienne, mais aussi artiste peintre et sculptrice.
Mais oui, Stéphane, vous avez commencé tout à l'heure à nous le raconter, à raconter comment le protecteur de Sarah Bernhardt, le duc de Morny, lui avait offert des leçons de dessin dans un cours privé parce qu'il avait pu observer qu'elle était très douée. Et alors, j'ai découvert, pour ma part, dans le livre d'Hélène Tierchant, comment Sarah Bernhardt s'était mise finalement à la sculpture à la suite d'un incident. C'est parce que sa rivale à la Comédie Française, Sophie Croisette, était la maîtresse de l'administrateur de la Comédie Française, donc il lui donnait tous les premiers rôles. Et du coup, Sarah Bernhardt, qui avait l'habitude de jouer quasiment tous les soirs, là, ne jouait plus que 2 à 3 fois par semaine. Elle en avait marre, donc elle s'est dit, il faut que je fasse autre chose. Elle le raconte dans son livre « Ma double vie », ne pouvant dépenser au théâtre mes forces intelligentes et mon désir de créer, je l'ai mise au service d'un autre art et je me mis à travailler la sculpture avec une folle ardeur. Les rudiments de la sculpture lui sont enseignés, nous raconte Hélène Tierchant, par le célèbre statuaire Mathieu Meunier pour lequel elle a posé. Et tout en posant pour lui, elle devait d'ailleurs être un modèle assez épuisant, elle lui posait naturellement toutes sortes de questions sur la sculpture. Hein, comment faites-vous ceci et qu'utilisez-vous comme instrument, etc. Et le sculpteur attendri lui a enseigné les rudiments de son art. Alors elle se loue un atelier au pied de la butte Montmartre, 11 boulevard de Clichy, et tous les jours à 17h, elle y reçoit amis et admirateurs. Et effectivement, là aussi, il y a une forme de mise en scène, parce que cet atelier, il y a des coussins, des tentures, enfin ça, c'est aussi très à la mode au 19e siècle. On couvre tout, on couvre les pianos, on couvre les cheminées, on couvre les fauteuils, donc il y a quelque chose de très opulent. Et évidemment, elle se donne aussi en spectacle quand elle sculpte, nous raconte Hélène Tierchant, parce que qui dit spectacle, qui dit théâtre, dit costume. Alors elle se fait faire un pantalon, ce qui est quand même une chose assez rare pour une femme. C'est ce que faisait Rosa Bonheur aussi. Elle se mettait en pantalon pour aller peindre, mais enfin, ça n'était pas la loi du genre. Et la divine réalisera les bustes de nombreuses personnalités de la politique, du spectacle ou de la littérature. Et là, vous dites, Hélène Tierchant, que la seule personne qui ait refusé de se faire faire un buste par Sarah Bernhardt, c'était Flaubert. Alors pourquoi, selon vous, Flaubert a-t-il refusé de poser ?
Elle a joué pour Flaubert, elle a joué une des pièces que Flaubert avait mis en scène, de Louis Bouillet, qui était décédé à Issé. Donc ils étaient vraiment amis et elle admirait l'écrivain. Mais Flaubert avait une pudeur, il pensait qu'il était déjà un peu âgé et il était grossi, il avait ses crises d'épilepsie il pensait qu'il avait une tête, entre guillemets, de vieux boucher. Et il ne voulait pas être immortalisé. Ouais. Il y a très peu de portraits de Flaubert. Hein. C'était un homme pudique qui ne s'aimait pas physiquement.
Et donc, lui refuse, la cour et la ville se pressent pour être portraiturés par elle. Est-ce qu'il y a aussi un effet, l'artiste féminin, est-ce que c'est encore une gageure d'être une femme sculpteur à l'époque? Est-ce qu'il y en a quelques-unes?
Il y en avait dans l'aristocratie. Elle a eu aussi un client qui était Alphonse de Rothschild, le banquier, qui l'a beaucoup aidé dans sa vie, qui l'a aidé au moment de... quand elle a créé son ambulance à l'Odéon, qui a donné un petit peu d'argent au moment où on lui a coupé la jambe. Alphonse de Rothschild vient, paye 10 000 francs or à l'époque, ce qui était quand même une petite fortune, pour qu'elle fasse son buste. Il n'est pas content du résultat, il lui fait un chèque, mais il lui dit « gardez le buste ». Et Sarah Bernhardt, vexée, déchire le chèque devant lui et casse le buste en petits morceaux et lui fait envoyer les morceaux.
Vous racontez aussi comment elle transgresse les conventions. Oui. Elle va étudier l'anatomie et si l'on en croit la rumeur, écrirez-vous, elle assiste à quelques séances de dissection, ce qui est bien raccord avec cette fascination pour la mort. Rien ne lui fait peur et pas même de s'attaquer à cette composition magistrale représentant une vieille femme tenant sur ses genoux un petit noyé. C'est une idée qu'elle a eue pendant un voyage dans le Finistère avec Gustave Doré. Et cette œuvre va être reçue au salon en 1876. C'est une œuvre qui est intitulée « Après la tempête ». Alors, ça suscite à nouveau la polémique. On raconte qu'elle a eu un nègre, que ce n'est pas du tout elle qui l'a créé. Et alors, surtout, dans des termes, évidemment, qui aujourd'hui feraient jaser dans les chaumières. L'œuvre est à mille lieues des bustes qu'elle modèle d'ordinaire. Et elle paraît trop puissante pour être de la main d'une femme. Enfin, écoutez, quand on connaît Sarah Bernhardt, est-ce qu'une œuvre peut être trop puissante pour être de sa main ? Elle n'a qu'une mention honorable pour ce groupe, mais elle ne se tient plus de joie parce qu'elle l'écrit elle-même. « Il me semblait maintenant que j'étais née pour être sculpteur et je commençais à prendre mon théâtre en mauvaise part. Je n'y allais que par devoir et je me sauvais le plus vite possible. » Et il faut dire que ces statues ont une certaine cote assez vite. En 1879, vous racontez qu'un richissime marchand d'art anglais, Ernest Gambard, lui achète 10 000 francs après la tempête. Il va en faire des réductions en bronze. Et ce groupe fait aujourd'hui partie des collections du Musée national des femmes artistes de Washington. Le style de Sarah Bernhardt évoluera au fil des années. Elle s'affranchit progressivement de toute contrainte, de toute convention. Elle s'efforce de traduire dans la glaise ses obsessions, alors en sculptant notamment le fou et la mort, cette œuvre qui représente le bouffon Triboulet tenant en main le crâne de sa fille. Et sur le piédestal, Sarah Bernhardt a gravé une strophe d'une charogne, le poème de Baudelaire. « Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Oui, telle vous êtes, Sarah Bernhardt, dormant sous l'herbe grasse depuis 100 ans, mais vos œuvres, elles, par bonheur, sont immortelles. »
Merci beaucoup Clémentine. Annick Lemoine, on trouvera ces œuvres, les œuvres de Sarah Bernhardt au Petit Palais dans l'exposition ?
Oui, bien entendu. Je pense que ça sera l'une des grandes découvertes de l'exposition. Nous avons pu réunir une exceptionnelle sélection d'œuvres de Sarah Bernhardt. Le fou et la mort, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure. Mais également son autoportrait en chimère, une sorte d'étrange objet, un encrier merveilleux. Quelques portraits, par exemple, de son ami, amant, portraitiste attitré... Georges Clérin ou de Louise Abéma, autre amie fidèle, amante, maîtresse peut-être, cette peintre que vous découvrirez à l'exposition. Et puis, je voudrais insister parce que pour moi, ce sont les plus belles œuvres de Sarah Bernhardt, là où elle est la plus créative et inventive. Ces extraordinaires sculptures, ces bronzes en forme d'algues, puisqu'à la fin de sa vie, elle achète un fortin à Belle-Île. Et elle va ramasser algues, coquillages, poissons et s'en inspirer pour créer des sculptures Art Nouveau particulièrement originales, comme cette dague en forme d'algue. En fait, elle moule les algues et ensuite elle les fait couler en bronze. Et vous verrez une sélection riche, originale de ces sculptures.
Eh bien, merci Annick Lemoine. On pourra admirer les créations de Sarah Bernhardt au Petit Palais à Paris à partir du 14 avril prochain, à l'occasion de l'exposition événement Sarah Bernhardt et la femme créée à la star. Et merci à vous, Hélène Tirchand. Je rappelle que votre livre, Sarah Bernhardt, scandaleuse et indomptable, est disponible aux éditions Talendier.